CNews met fin au contrat du médiateur de rue Mohamed Ben Maddour. C'est un bordel monstre dans nos quartiers, crie Mohamed Ben Maddour. Le 23 mai 2023, au lendemain de la fusillade, Mohamed, médiateur social de son expérience vécue de terrain, il dénonçait une politique prise dans une logique suicidaire. La médiation de ses propos lui a valu l'éviction de son poste, à savoir médiateur de rue.
Travaillais en MERS, en tant que surveillant au centre éducatif fermé Les Cèdres. Pendant 2 ans, je gérais des mineurs délinquants. Et c'est là où, en fait, où j'ai fait ma plus grosse expérience et où je me suis fait plus ou moins les dents. J'imagine. Et un an. Et après, je suis revenu sur le métier. Donc je me suis... qu'en fait, c'est bien plus compliqué que ça. Et que derrière, il y a des enjeux politiques. Et il y a un droit, il y a une censure un peu à... une censure envers les médias et envers l'opinion publique, qu'on veut cacher certaines choses. Et des personnes comme moi dérangent, parce que moi, je ne fais pas de politique, mais je fais un constat simple et réel sur la réalité du terrain dans les quartiers nord. Parce que je suis confronté à pas mal de choses, au vécu des habitants. Et quand j'en parle aux médias, ça dérange et donc on bafoue le droit.
Mohamed Ben Maddour, éducateur de rue, devant les locaux de l'ADAP 13 à Frévalon.
Et ça, c'est pour moi, c'est pas possible parce qu'il y a dans d'autres pays, il y a des journalistes qui se font tuer. Et nous, on est en démocratie, on est un pays des droits de l'homme. On ne doit pas interdire les habitants de parler à la presse.
Liberté
d'expression, tout simplement. Voilà.
C'est pas la première fois que vous êtes sollicité par les médias pour.
Non, c'est pas la première fois. J'ai été sollicité par tous les médias. Bon, là où je me suis plus ou moins fait remarquer, c'est quand éventuellement, j'ai interpellé Emmanuel Macron à la Cité Bassins, où je lui ai clarifié certaines choses sur le quotidien de nos quartiers. Ça a déplu un peu à certains, mais bon, la pilule est passée. Et du coup, en fait, c'est là où j'ai fait la connaissance de pas mal de journalistes. Et qu'en fait, quand ils se sont adressés à moi, ils ont vu que moi, derrière, je n'avais pas des enjeux, des buts politiques. Je veux juste, mettre en lumière le quotidien des habitants et le quotidien aussi de nous, les travailleurs sociaux, ce qu'on vit et les moyens des fois qui nous manquent pour mener à bien nos missions.
Ce que vous avez exposé dans votre constat, dans votre témoignage, qu'est-ce qui a pu, à votre avis, le plus déranger ?
Ce qui a le plus dérangé, c'est un petit médiateur sans envergure qui parle de façon libre aux médias et qui dénonce certaines choses.
C'est quoi certaines choses ?
C'est-à-dire les problématiques dans les quartiers, donc la délinquance, le quotidien des habitants, l'insalubrité.
Sauf que ça, on le fait tous, on l'entend depuis des années.
Ouais. Mais ça eux, ça les dérange parce qu'en fait, ils ont peur d'offenser les financeurs. Voilà. Et ils ont peur de se faire taper sur les doigts par les financeurs. Si demain, on vient leur reprocher, dire « Regardez, vous avez remporté tel marché, on vous finance pour telle mission, mais il y a votre médiateur qui met ça en lumière, ça va déranger certaines personnes. »
Oui, mais vous n'êtes pas présenté en tant que médiateur de l'ADAP.
Non, je ne mentionne jamais mon employeur et je fais toujours en sorte de préserver mon employeur parce que j'ai quand même un droit de respect envers mon employeur qui me paye, entre guillemets.
Même dans ce cas-là, ils n'auraient jamais pu vous relier à l'ADAP.
Non. Si j'ai été victime d'une malversation, en fait, entre plusieurs directions, pour ne pas les nommer, la Régie Service 13, une responsable de la Régie Service 13 qui a balancé ma vidéo à la directrice de l'ADAP. Et la directrice de l'ADAP, en toute puissance, a dit « Ouais, c'est un petit médiateur de chez moi, il est en période d'essai, il termine sa période et je vais le remercier. »
Et vous ne pensez pas, justement, vu que vous avez déjà fait plein d'apparitions médiatiques, vous ne pensez pas que c'est spécifiquement le nom CNews qui dérange ?
Je ne pense pas, parce qu'il y a aussi BFM. On aurait pu dire BFM, on aurait pu dire d'autres chaînes. Je ne pense pas que c'est CNews. Moi, ce n'est pas ce qu'on m'a dit. On m'a dit, voilà, parce que tu étais intervenu à la télévision.
D'accord.
Voilà, en qualité de médiateur.
C'est clairement ce qu'on vous a reproché dans...
L'entretien de bilan de fin de période d'essai.
D'accord.
Alors on m'a dit tu es intervenu à la télévision en qualité de médiateur. Mais oh, je dis non, mais c'est attends, j'ai pas mentionné la date presse. J'ai relu mon contrat, aucune clause de réserve. Il n'y a pas d'interdiction de parler à la presse. Donc ça c'est pas normal ça.
Oui, vous n'êtes pas dans la fonction.
Voilà. Moi, tout le monde est libre de parler. Moi je suis pour la liberté d'expression. Voilà.
Okay.
n'êtes pas soumis au droit de réserve.
Voilà, je ne suis pas soumis au droit de réserve, c'est ça, de toute façon.
Et qu'est-ce qui les a plus dérangés?
Ce qui les a plus dérangés, c'est ça, je l'ai dit. C'est le... Ils m'ont pas précisé le contenu de ce qui les a dérangés, mais moi, ils m'ont dit qu'on est embarrassé. Moi, je reprends les termes du directeur adjoint. On est embarrassé parce que vous êtes intervenu à la télévision en qualité de médiateur. Voilà.
Après, c'est pas un licenciement, c'est...
Une fin de période d'essai, mais injustifié. Que...
Un mois.
Ouais,
un mois,
ouais.
Et la suite, c'est quoi? Il y a volonté de pousser en justice ou...
Pour l'instant, c'est un peu compliqué avec la période d'essai. Donc là, mon avocate s'occupe du dossier.
Donc vous avez quand même cherché à entamer des poursuites.
Nous, ce qu'on veut en fait prouver ou faire valoir, c'est la discrimination. Parce que j'ai été victime de discrimination. Je n'aurais pas parlé à la télévision, je ne serais pas là aujourd'hui, malheureusement.
Dis-leur que tu as bien travaillé aussi. Pas moi. Parce que les retours qu'ils faisaient.
Les retours. Non, ce qu'ils ont fait, ils ont essayé quand même de chercher la petite bête. Donc, ils ont appelé tous les médiateurs, parce que j'ai travaillé dans tous les secteurs. Tous les médiateurs avec lesquels j'ai travaillé, il y en a moins.
Avant même d'avoir travaillé à l'ADAP.
Non, ça, ils n'ont pas fait.
Ils sont pas allés jusque-là.
Non, je ne pense pas. Mais quand, pendant mon travail, je sais, ma période de travail, ils ont appelé tous les médiateurs qui étaient avec moi. Et chacun était unanime pour dire, Mohamed, franchement, c'est un gars de terrain, il fait du bon travail. Et il aime le contact avec les habitants, ça se passe très bien. Donc ils me l'ont dit, ça. Ils m'ont dit, votre travail, on n'a rien à dire dessus. Ils m'ont dit,
C'est le passage à la télévision.
D'accord. Je ne serais pas passé à la télé, je ne serais pas là. Mais bon, en même temps aussi, si 6 mois, je ne prends pas ce risque-là, qui c'est qui va parler aux médias? Les gens après ils vont voir ça, parce qu'il y en a plein qui ont peur, qui m'ont déjà dit, Mohamed, fais attention quand tu parles avec des journalistes, ça peut te coûter ton poste. Mais non, je ne suis pas d'accord. Moi, il y a des gens qui se sont battus pour ça. Pourquoi les journalistes, ils n'ont pas le droit de faire leur travail? Voilà, c'est tout. Je ne sais pas où, on n'est plus au temps de Louis XIV ou pendant le régime de Vichy ou au temps de l'URSS. C'est fini tout ça, cette époque-là. Là. C'est révolu.
Quand vous dites discrimination, c'est comment on la qualifie? Parce que vous êtes syndiqué, vous êtes...
Non, je ne suis pas syndiqué. C'est une discrimination, on va dire, médiatique, j'appellerais ça, entre guillemets. Le fait de parler à la télévision, voilà.
Une entrave à votre liberté d'expression aussi.
Oui, c'est plus une entrave à la liberté d'expression, c'est ça. Ça dérange quand, vous voyez, les directeurs ne parlent pas à la télévision alors qu'ils se pensent supérieurs à nous. Et quand un petit médiateur, il va parler et ça dérange.
Que c'est la peur ou la pression, je ne sais pas, de votre employeur qui a fait, qui a donné lieu...
Je pense qu'il y a un problème dans cette affaire.
Par rapport aux financeurs. Hein.
Ouais, je pense qu'il y a deux problèmes dans cette affaire. Il y a un problème d'ego. De dire, ouais, nous on est cadre, on est directeur, on parle pas à la télévision et le petit médiateur il parle à la télé. Et le deuxième truc, c'est de dire, il dérange, il dit certaines réalités du terrain et demain les financeurs ils peuvent venir nous taper un peu sur les mains, nous mettre des pressions à cause de ce qu'ils racontent à la télévision. Parce qu'eux ils sont quand même payés, cette structure. Et c'est ce que reprochent les habitants, ils sont payés pour avoir un résultat sur le terrain. Voilà, le département, la préfecture.
Si vous n'êtes pas là pour transmettre la réalité du terrain, comment est-ce que nous, on peut réintégrer les quartiers dans la société?
Malheureusement, ça va être compliqué. À moins que vous ayez des habitants, des fois, qui ont le courage un peu de parler, personne n'osera parler. C'est ça qui est dommage. Et ça, c'est intolérable. Pas possible.
La réalité du terrain va être biaisée.
Voilà. On veut censurer la réalité du terrain. Moi, c'est ça, mon truc. Je ne leur demande rien, en soi. Je ne demande rien.
J'ai compris. Ce qui reproche, c'est... que vous ayez pris la parole en tant que médiateur, puisque c'est votre rôle, d'intervenant donc sur deux terrains, sans leur demander un aval, c'est ça? Sauf que...
Non, ils ne m'ont même pas demandé, ils m'ont même pas dit de demander un aval, en qualité de médiateur, point barre.
Juste le fait qu'ils se soient exprimés.
Voilà.
Non, mais parce que sinon, c'est vrai
ils
ne
m'ont
pas
dit, non, il fallait demander, mais moi...
C'est bridé,
que dans son contrat, enfin, il a lu le contrat et rien n'était écrit de...
Et surtout que le pire de ça, c'est que je n'ai pas mentionné mon employeur, si je parle au nom de l'ADAP. C'est tout à fait légitime que je demande l'autorisation de l'ADAP. Mais là, non.
Il vous reproche donc d'avoir parlé en qualité de médiateur, mais l'ADAP a déjà fait des interviews, a déjà parlé aux médias, non?
Il parle très peu. Après, il y en a, je pense, qui sont bien placés sur... Mamie peut vous dire... Mamie, est-ce que tu peux en parler un peu des interventions télévisées de l'ADAP? On les entend pas très... pas trop, quoi.
Que ce soit télévisé ou pas. Ouais. Mais je veux dire, elles existent. Donc c'est contradictoire de vous...
Elles existent,
ouais, toi. Ouais.
Ben moi, en fait, voilà, elle me demande est-ce que la DAP est déjà intervenue auprès des médias.
Pas que la DAP, hein, de manière générale, toutes les institutions, que ce soit Marseille ou même dans les autres villes, les responsables institutionnels n'ont jamais fait de constat auprès de la presse pour montrer la situation dramatique, surtout à Marseille en ce moment, mais c'est vrai que oui.
Mamie, militant de longue date, ancien éducateur, il a jeté son tablier il y a 4 ans pour retrouver sa liberté d'action et de penser et de se sentir en accord avec sa mission. Mamie.
Moi, je n'ai jamais vu de responsable associatif parler de constat. De manière générale, il n'y a pas que la DAP, de manière générale.
C'est contradictoire qu'ils lui reprochent d'avoir parlé en tant que médiateur si eux avaient déjà accordé des interviews à la presse. C'est ça que je pointe.
Oui, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que la DAP, sachant qu'ils ont quand même une mission d'intérêt général, d'intérêt public, ils sont quand même financés par le département à 90%. Donc, dans le cadre de la mission prévention de la délinquance, ça fait quand même maintenant 20 ans que la population, en tout cas les habitants des quartiers, dénoncent à un moment donné un abandon dans les quartiers. Il y avait une urgence, il y avait éventuellement la sonnette d'alarme à tirer. Je ne sais pas, moi, la DAP ne l'a jamais fait et... Peut-être qu'ils le font, mais en huis clos, entre eux. Mais en tout cas, publiquement, ils n'ont jamais alerté. Voilà. Et je pense qu'ils auraient dû le faire quand même, parce que je pense que c'est une des missions de la DAP. Hein, ce n'est pas des discussions entre eux, en tout cas entre institutions. Ça concerne la population. On n'est plus, à un moment donné, dans une situation où il y a les acteurs et les spectateurs. Les habitants sont aussi des acteurs. Hein. Voilà, donc il y a même eu la loi de 2002 justement qui dit que obliger justement les institutions à rendre finalement les spectateurs jusqu'à présent d'être acteurs. Donc on est tous des acteurs à main donnée d'une politique sociale, d'une politique publique. C'est pas les personnes qui sont payées et les personnes et les habitants. Tout le monde est concerné dans la situation. Et pourquoi aujourd'hui on a ghettoisé les institutions entre eux et la population entre elles? C'est pas normal.
Mamie, souviens-toi. Quand il y avait les mineurs isolés, qu'on allait voir les éducs de la DAP, et qu'il y avait des gens, des travailleurs sociaux qui craquaient, qui témoignaient quand même.
Jamais en direct.
C'est-à-dire anonyme,
Il n'y a jamais eu d'éducateur de la DAP qui a témoigné à un moment donné de la violence, de la maltraitance des mineurs non accompagnés. Ils le font, hein, parce que ça reste des êtres humains. Hein. Moi, je pense qu'il y a des super travailleurs sociaux à la DAP, mais de manière anonyme, oui. Mais ils l'auraient fait ouvertement avec leur casquette d'éducateur de la DAP, je pense qu'ils auraient été virés.
Pourtant, dans la loi, il n'y a rien qui...
Oui, il n'y a rien. Les travailleurs sociaux n'ont pas de droit de réserve.
Fonctionnaires.
Après, on peut parler à titre personnel. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas forcément parler à titre professionnel. Un éducateur, moi éduque, je ne peux pas parler au nom de mon association si je n'ai pas, l'autorisation de la direction. Ça devient une fraude professionnelle. Mais ça n'a pas été le cas pour Mohamed.
Le fait de dire qu'il est éducateur, ça a posé problème, là, d'un coup.
Je ne sais pas si c'est ça. C'est parce qu'il était sous contrat et en même temps, il a exposé à un moment donné des faits en tant que citoyen, en dehors de son cadre de travail. Oui, mais tu connais de toute façon Myriam, tu connais la musique. Hein,
par rapport à des financeurs.
Oui, je pense aussi. Je pense aussi, mais après, en tout cas, j'ai aucune certitude. Hein. Mais le cas de Mohamed, hein, je pense pas que ce soit une exception. Hein. Je pense qu'il doit y avoir des travailleurs sociaux qui ont des pressions, qui ont été licenciés, mais qui n'ont pas forcément le soutien que Mohamed a aujourd'hui.
S'il ne l'avait pas licencié, ça faisait moins de bruit.
Oui, mais d'autres personnes ont dû être licenciées pour les mêmes faits, sachant que le fait qu'ils n'ont pas été médiatisés, qu'ils n'ont pas forcément de soutien, ils ont accepté à un moment donné cette décision de leur direction et ils sont rentrés chez eux. Et il y en a beaucoup. En tout cas, je ne peux pas donner de chiffres, mais je sais que ça arrive. Ça arrive, c'est arrivé depuis 20 ans.
Je sais, c'est un métier
oui.
Où
il faut fermer
il
sa gueule.
Il y a eu beaucoup de dépression de départ,
oui.
Et
surtout
par
fermer
rapport
sa gueule.
À des contradictions entre leurs missions, les moyens et...
Ouais. Et fermer sa gueule. Moi, je vois quand je participe aux réunions à la préfecture et tout, dès que je commence à dire ce que tout le monde sait d'ailleurs, hein, on ne découvre pas, souvent les gens font la grimace en disant arrête de parler de ça, quoi. C'est un sujet qui dérange, même si c'est un constat qui est...
Mon père m'a dit espèce de voyou, chez nous un homme, ça meurt debout. Il a fait parler la foudre et la foudre a parlé. Emprisonné pour un braquage de trop, qui nous promettait même pas la lune. On s'est fait serrer moi pour sauver ma peau, vu qu'il n'y avait pas le magot. Je suis tombé pour des prunes et pour du vent, moi qui ne tombais pas si souvent. Mais ils ont fait parler la foudre et la foudre a parlé. J'ai jamais pris mes jambes à mon cou. Mauvais sort, j'ai dit au juge sans rancune. Puisqu'il y a des vies qui valent pas un clou et qui n'ont pas le même goût. Me voilà condamné. Toi que des hiboux. Si le jour fait pas de place, la nuit pense les plaies. Mange, c'est je te laisse le cœur gros. Je me souviens de chacun de tes mots. Et ceux qui m'ont traîné jusqu'au cachot, j'ai pas juré de leur trouer la peau. Me voilà condamné pour quelques paires d'années. Savoir pour quelle raison, à peine qu'on aimait, je vois la destinée à compter les jours plus que de raison. Me voilà condamné pour quelques paires d'années à ne plus savoir pour quelle raison, à peine qu'on aimait.
Oui, bien sûr, c'est un ami d'enfance. Ben, moi, j'ai grandi avec lui donc, à Salon de Provence. Donc, c'était un très bon jeune, très sérieux. Il a toujours été dans le droit chemin, toujours il aidait tout le monde, il aidait les jeunes, tout ça. Donc, on s'est perdu de vue entre-temps. Là, je l'ai recontacté suite à l'affaire que j'ai vue. Et ça m'a vraiment attristé parce que c'est vraiment un jeune sérieux, que ça lui tient vraiment à cœur. Toutes ces histoires-là, ça lui... Et voilà, aujourd'hui, je suis venu pour le soutenir parce que je trouve ça inadmissible ce qui se passe, ce qu'ils lui ont fait à l'association.
Et vous attendez pas à ça, vous quelqu'un qui est connu, qui fait du bon boulot
Moi, je m'attendais vraiment pas à ça. Moi, je pensais que je le voyais un petit peu à la télévision, sur BFM TV, faire des interventions de qualité en plus. Donc, je me disais, il n'y a aucune raison pour qu'il soit licencié de son travail. Voilà, pour moi, c'est un exemple, en fait. Hein. Nous, on était un peu des jeunes, un peu en difficulté et tout, mais lui, il a eu un regard extérieur, il nous a toujours conseillé, même s'il est plus jeune que moi, il a toujours été plus mature que son âge et tout. Et au final, je le vois dans cette situation, ça me fait vraiment mal au cœur, vraiment. Et
lui, il est déjà passé par ce chemin, disons, pour ne pas dire délinquance, il était brouillant, il faisait les mille coups. Donc ici, qu'est-ce qui se passe?
Il sait de quoi il parle, on a grandi ensemble, il a tout vu. Les gens rentraient en prison, il a vu des assassinats, il a tout vu. Comme c'est un garçon intelligent, il a choisi le droit chemin d'aider les jeunes, d'aller au contact. Il est sur le terrain, c'est un homme de terrain. Donc voilà, le voir dans cette situation, franchement, ça me fait mal au cœur. Honnêtement, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils l'ont... Voilà.
Et là, aujourd'hui, on est en face de l'association LADAP, à Frévalent, juste derrière la poste, mais ils ont fermé complètement. Ils ne voulaient pas accepter, ils ne voulaient pas parler. Voilà.
Et je ne sais pas pourquoi. Normalement, l'association, il me semble qu'elle doit être ouverte à cette heure-ci. Après, je ne sais pas, peut-être qu'ils ferment exceptionnellement ou qu'ils ont su qu'on allait manifester, peut-être, et qu'ils ont fermé exprès pour ne pas s'exprimer devant les médias et tout. Mais moi, je trouve ça un peu louche, quoi. Ça serait bien qu'on ait aussi leur son de cloche à eux. Ça aurait été sympa. Parce que là, on n'a qu'un seul son de cloche et nous, ça nous embête un peu. On n'a pas la contradiction en face. Donc, c'est un peu embêtant.
Et vous habitez dans quel quartier?
Moi, j'habite à la rue, je suis un sinistré de la rue d'Aubagne.
Ah oui, ok.
Donc là, j'ai été relogé depuis en 2018. Et voilà, maintenant, tout va bien pour moi. Ça a été très compliqué. Voilà. Grâce à des associations, à des médiateurs, entre autres, comme Mohamed, voilà, j'ai été relogé, tout ça. Donc, bon, Dieu merci, ça va aujourd'hui.
Et vous travaillez où exactement?
Moi, je travaille à Marignane, à l'aéroport. Ouais.
Ok, merci. Hein.
Merci à vous.
Au rez-de-chaussée, dans mon HLM, il y a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Ses nuits dans les caves, avec son Beretta, traque les mots qui chouravent, le pinard au bourgeois. Il se recrée l'Indochine, dans sa petite vie de peine cul. Sa femme sort pas de la cuisine, sinon il cogne dessus. Il est tellement givré, que même dans la Légion, ils ont fini par le jeter. C'est vous dire s'il est con, putain ce qu'il est blême, mon HLM. La monde du 8e, le HLM. Au premier, dans mon HLM, y'a le jeune cat dynamique, costard en alpaga, celui qui a payé 20 briques, 102 pièces plus le chia. Il en a chié 20 ans pour en arriver là. Maintenant il est content, mais il parle de se casser. Toute façon il peut pas, il lui reste à payer le lave-vaisselle, la télé et la sûre pour ses chats. Parce que naturellement, ce bon contribuable centriste, il aime pas les enfants, c'est vous dire s'il est triste. Putain ce qu'il est blême, mon HLM. Et la montre du 8e, le HLM. Au deuxième, dans mon HLM, y'a une bande d'allumés qui vivent à 6 ou 8 dans 60 mètres carrés. Y'a tout le temps de la musique, les anciens de 68. Y'en a un qui est chômeur, y'en a un qui est un split, y'en a une, c'est ma sœur. Ils vivent comme ça, relax. Y'a des matelas par terre, les voisins sont furax. Ils font un boucan d'enfer, ils payent jamais leur loyer. Quand les huissiers déboulent, ils écrivent à Libé. C'est vous dire s'ils sont cool. Putain ce qu'il est blême, mon HLM. Et la montre du 8e, le HLM. Au troisième, dans mon HLM, y'a l'espèce de connasse, celle qui bosse dans la pub, l'hiver à Avoriaz, le mois de juillet au club. Comme toutes les décolorées, elle a sa mini couvert, elle allume tout le quartier quand elle sort son coquère. Au manif de gonzesse, elle est au premier rang, mais elle veut pas d'enfant, parce que ça fait vieillir, ça ramollit les fesses, et puis ça fout des rides, elle l'a lu dans l'Express. C'est vous dire si elle lit, putain ce qu'il est blême, mon HLM.
Alors je reviens directement à Mohamed Ben Moudou. Voici son portrait craché.
Je m'appelle Mohamed Ben Medour, j'ai 35 ans, je suis travailleur social depuis une dizaine d'années, très engagé pour le quartier, la ville et mon pays aussi, parce que j'aime mon pays. Et là, dernièrement, j'étais médiateur social dans les quartiers nord au sein du groupe ADAPT.
On va revenir à ça. Parlez-moi un peu de votre enfance, parce que je suis sûr et certain que vous avez... Vous avez un palmarès.
Oui, j'ai un petit palmarès parce qu'en fait, oui, j'ai été boxeur. J'ai aussi eu un parcours de délinquant, un moment dans ma vie où je me cherchais, où j'étais en errance parce que j'étais en décrochage scolaire. Puis après, à travers le sport, donc la boxe, je me suis raccroché au monde du travail et du social. Donc le sport et le social a beaucoup fait pour moi et je lui en suis redevable. Donc j'ai décidé de consacrer ma vie au social en fait.
Et quel genre de sport?
La boxe anglaise.
Donc la boxe anglaise, elle vous a rendu le droit chemin.
Ouais, la boxe anglaise m'a beaucoup aidé pour m'apprendre la discipline et la rigueur. Et je dois beaucoup à ce noble art.
Et dans quel quartier vous vivez?
Moi j'habite au Marronnier.
Ouais. Donc on va pas parler de ce qui se passe, on parle de vous. Ouais. Et comment vous avez choisi ou vous êtes retrouvé à la DAP?
En fait, j'ai su que la DAP faisait des interventions de médiation sociale au cœur des quartiers très sensibles à Marseille. Et ça m'intéressait parce que moi, mon truc, ce n'est pas d'avoir un poste confortable, mais d'avoir un poste, on va dire...
Mais
d'avoir un travail en fait qui me permet d'être au chevet des habitants dans les quartiers difficiles. Et ça, c'est pour ça que je me suis engagé en tant que médiateur social dans les quartiers nord.
À un moment, vous avez vu dans une image avec Macron. Comment est-ce que vous avez des contacts?
Tout bonnement, ce qui s'est passé en réalité, c'est que j'ai su que le président Macron allait arriver à la cité Bassens, une cité que je connais bien parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas. Et dont certains que j'ai connus qui sont décédés. Mais j'ai décidé, en fait, avec ce que j'ai vécu dans les quartiers, de l'interpeller, d'aller pour l'interpeller et lui faire part de mon ressenti, en fait, sur cette situation-là qui me tient à cœur.
Alors, avec la DAP, qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Avec la DAP, ce qui s'est passé, c'est que ils m'ont embauché en tant que médiateur dans les quartiers nord et ils se sont aperçus pendant ma période d'essai que je fais une intervention auprès de journalistes, donc le Morandini sur CNews en qualité de médiateur, mais je n'ai pas mentionné le nom de mon employeur et ça les a dérangés énormément. Et d'ailleurs ils me convoquent à la fin de ma période d'essai pour me dire: monsieur, vous faites du bon travail mais on est embarrassé parce que vous êtes intervenu à la télévision, textuellement. Voilà.
Ça n'a rien à voir avec ce que vous faites. Vous êtes reconnu dans votre travail, mais...
C'est ça, mais il y a un droit de silence et d'omerta qui s'impose dans ces structures de médiation pour pas qu'en fait on fasse émerger la réalité du terrain et qu'on dise ce qui se passe dans les quartiers. Et ça peut déranger certaines personnes et la DAP a peur des répercussions en fait.
Et avec les jeunes, comment ça se passe? Vous connaissez bien les jeunes?
Oui, avec les jeunes ça se passe très bien parce que moi... On se traite d'égal à égal. Je les respecte, je leur amène un respect, je vais vers eux, mais ils me le rendent bien ce respect. Parce que moi, en fait, je suis un travailleur social, je n'ai pas de jugement à faire. Que le jeune soit dans la délinquance ou ne soit pas dans la délinquance, ou traîne dans le quartier ou fait n'importe quoi, ce n'est pas ça. Moi, je suis là pour l'aider, je ne suis pas là pour le juger. Et ça, ils l'ont très vite compris avec moi, et c'est pour ça qu'ils m'accordent leur confiance et leur respect. Mieux que mes employeurs, d'ailleurs.
Donc aujourd'hui, vous êtes venu à Frévalent devant la direction de la DAP pour vous.
Voilà, symboliquement, on est venu devant le siège de Frévalent pour manifester notre mécontentement et pour dire qu'en fait, on ne peut pas bafouer le droit à l'expression et le droit aux médias.
Et qu'est-ce qui manque dans les quartiers pour les jeunes? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'ils veulent?
Eux, en fait, ils veulent déjà de la considération. Voilà, ils veulent de la considération, du respect. Mais le problème de ces jeunes-là, c'est qu'en fait, ils ont trop été inoccupés et ils ont pris de mauvaises habitudes. Et ils sont enclavés dans leur quartier. Donc, leur zone de confort se situe dans les quartiers. Et ce qu'il faudrait, en fait, c'est faire sortir ces jeunes des quartiers. C'est ça la solution, la première solution. Et ça, je l'ai mentionné aussi à CNews, bien sûr. Mais apparemment, ça dérange, parce que la DAP prend un pognon fou pour en fait, soi-disant, s'occuper de ces jeunes-là, mais il n'y a aucun résultat. Il n'y a aucun résultat.
Ils les font voyager dans leur quartier.
Voilà, voilà. Restez dans vos quartiers, on vient vous voir dans vos quartiers, mais restez dans vos quartiers. Mais non, c'est pas comme ça qu'on va résoudre les problèmes.
Pas d'activité qui...
Il y a, non, il faut dire qu'il y a quand même
ça,
quelques...
Oui, mais oui. À l'extérieur.
Oui, il y a très peu d'activités en fait au sein de la DAP liées vers l'extérieur. La DAP en fait est financée pour intervenir à l'intérieur. Mais ils devraient changer leur fusil d'épaule en proposant d'autres activités plus ouvertes sur l'extérieur.
Et vous, vous n'allez pas lâcher le morceau? Vous allez rester?
Non, 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 non. Moi, je ne lâcherai pas le morceau parce qu'il y a plusieurs trucs qui me dérangent. On ne flingue pas quelqu'un pour sa position médiatique. On n'empêche pas une personne, un être humain, de parler à des journalistes. On ne censure pas le travail des journalistes et on n'enlève pas tout simplement le pain de la bouche à un père de famille.
Donc ça, si on ne parle pas, on fait comme dans les pays d'Afrique. La corruption, l'omerta...
Ah oui, c'est ça, c'est totalement ça. C'est mon cas, en fait, c'est une jurisprudence, il sert d'exemple. Donc si Mohamed, il se laisse faire, il dit rien, ben les autres, ils vont en profiter, ils vont dire, regardez Mohamed, ce qui lui est arrivé, je vous donne un conseil, ne parlez pas à la télévision. Et plus personne ne parlera des journalistes, hein. Ça c'est clair, net et précis. Là, les langues commencent à se délier. Les gens commencent à avoir confiance aux médias et à parler. Mais là, avec cette situation, si on ne fait rien, ben plus personne, les gens ils vont arrêter de parler. Hein.
Il y aura une autre manifestation quand ?
On ne sait pas pour l'instant. Là, ce qu'on a constaté, c'est que la DAP a eu vent de notre mouvement et a fermé son siège. Ça, c'est...
Normalement, il travaille le vendredi.
Normalement, il travaille le vendredi après-midi jusqu'à 16-17h. Mais là, sachant qu'on vient, ben, ils ont carrément fermé les bureaux. Voilà.
Alors, en tant que sportif et éducateur, dernier mot, qu'est-ce que vous allez dire aux jeunes que nous écoutent sur Radio Galère ?
Ben, moi, ce que je dis, les jeunes, l'avenir est dans vos mains. Voilà. Faites preuve de créativité. Formez-vous, apprenez un métier, ouvrez-vous vers le monde, vers l'extérieur. Sortez de vos quartiers, les gars. Sortez des quartiers. Essayez d'aller chercher ailleurs. Voilà. Et personne ne viendra vous nourrir, vous mettre, comme on dit, une cuillère dans la bouche. Donc c'est à vous d'aller chercher votre pain. Autrement que par les moyens qu'on connaît actuellement et qui mènent à la mort, malheureusement.
Que pensez-vous de la France de demain ?
Mais la France de demain, elle peut se construire avec les forces vives du pays, les jeunes qui sont maintenant motivés pour servir leur pays. Servir son pays, ce n'est pas simplement aller à la guerre dans un autre pays, c'est travailler en tant qu'infirmière, en tant que médiateur, en tant que policier, pour le bien-être des habitants du pays.
Merci Mohamed d'avoir répondu à nos questions.
Je vous en prie.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous habitez à...
Ah ben oui, à Félix Pirate, ça tire tous les 5 minutes, on appelle la préfète, la sous-préfète, elle s'en fout de notre secteur. La DAP 13, ils traînent dans le quartier, mais ils font rien, ils promènent plus leur sac à dos que s'occuper des problèmes de voisinage, de tout ce qui se passe dans le quartier. Alors, comme Mohamed, il n'a pas la langue de bois, il dit tout haut, tout ce que tout le monde passe tout bas, on s'en prend à lui, on lui fait perdre son boulot. Alors qu'on dit à Marseille que les jeunes, il ne faut pas les mettre dans la rue, il va créer son réseau de drogue, lui aussi. Mohamed, c'est quand que tu crées ton réseau de drogue, je vais acheter chez toi, moi. Mohamed, c'est quand que tu crées ton réseau de drogue, parce que si tu ne peux plus travailler, crée ton réseau de drogue. Puisque les jeunes ne travaillent pas. Pourquoi les jeunes ne travaillent pas? Parce qu'on ne les veut même pas à McDo en stage à l'âge de 16 ans, 15 ans. Et alors, et quand il y a un jeune qui dit « Oh, il dit tout haut, tout ce que tout le monde tout pense tout bas », eh bien, on met le veto, on censure, comme de partout. On sait ce qui se passe. La police, ça les arrange que les jeunes se tuent entre eux, ça les arrange. Il faut arrêter de nous faire croire qu'à Marseille, il y a un travail de fond. Et quand on crée des associations qui coûtent des millions, eh bien, le travail, il est où? C'est des coquilles vides, monsieur.
Comme aujourd'hui, ils ont fermé. Pourquoi ?
Oui, parce qu'ils sont prévenus par d'autres personnes qu'on allait venir avec quelques personnes, c'est tout. Mais à Marseille, même dans l'handicap, monsieur, dans l'handicap, il y a la maltraitance, il y a le viol dans les institutions. Ouais, on a des enfants autistes, nous. Nous, dès qu'on a parlé un peu trop, ils nous ont mis à l'écart. Dans l'handicap, c'est pareil. L'MDPH, tout le monde se protège. L'ARS, l'MDPH, tout le monde. C'est un réseau, il ne faut pas toucher à... En haut, voilà, tout le monde a peur. La DAP 13 a peur de se faire perdre des subventions parce que Mohamed, il a dénoncé. Ben, tout le monde sait ce qui se passe.
Vous, en tant que maman, vous dénoncez, vous avez le courage.
Dénoncer, parce que quand il y a un jeune qui se fait tirer dessus, qu'on le voit par terre, ben ça prend au trip. C'est des petits jeunes qui meurent. Hein. Comme nous, les enfants handicapés, ils n'en ont rien ciré, qui finissent mal, qui restent dans les domiciles, que les parents ils tabassent ou qu'eux, ils nous tabassent. Qu'ici, ils s'en foutent. Quand il y a des associations qui travaillent, ben, on fait en sorte qu'ils ne travaillent pas. Et quand il y a des gens qui, ben, comme Mohamed qui sont entiers, qui disent la vérité, ben, on fait en sorte qu'on lui coupe l'herbe, il va pas travailler. Écrit son réseau, moi je vais acheter chez lui. Allô. Et oui, c'est vrai, monsieur. À Marseille, c'est ça, Marseille. C'est Marseille, c'est... C'est tu parles pas. Tu parles pas, tu avances. Tu parles, tu avances pas. De partout, même dans le journalisme et tout, les gens qui ont... Les électrons libres, on les aime pas, alors. Hein. On les marginalise. Ils sont en train de le marginaliser. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, ils sont en train de le marginaliser. Comme ça, il fait une bonne dépression, il prend la corde, il se part.
Aujourd'hui, vous êtes venu pour soutenir Amar.
Oui, 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 on le connaît, nous, ça fait longtemps, on le connaît. Quand il est à Bassens, que les flics viennent et que lui, eh ben, il se met entre et qu'il reçoit des pierres et qu'il fait le médiateur entre la police et lui, il les arrange, ce mec-là. Hein, parce que c'est lui qui prend les risques. Il est connu comme le loup blanc. Et si on lui met une balle à la tête, parce qu'il se mêle de tout. Eh oui, mais ça, il ne s'en regarde pas, monsieur. C'est se servir des gens, il se servent des gens.
Vous habitez où, madame ?
Moi, j'habite centre-ville, pareil.
Les gens qui veulent faire changer la ville, ils ne les laisseront pas faire changer la ville. Ça les arrange, tout ça. Et la DAP 13, c'est une coquille vide. C'est des millions pour rien. Moi, je vous dis, ils encaissent de l'argent, rien foutre. Et ils s'en foutent déjà, ils vous envoient déjà...
Hé, tonton ! Les cabas, ils sont trop lourds !
Allez, montez dans la voiture,
j'ai... Regarde, Bill, elle s'en va !
Monte, Bill, elle mou... Hé, Atmen ! Allez, monte. Allez, on y va. Hé. Ami Karim, tonton du bled. Pour tous les Miss Moore.
Les anciens sont là.
Les anciens sont là.
Daddy Lorty,
Daddy Lorty dans la maison.
Daddy Lorty,
non. Faites du bruit pour Daddy Lorty, la clica, s'il vous plaît.
La clica comme jamais.
On t'entend pas ou quoi? J'ai aperçu les deux balles aussi. Faites du bruit pour Jekyll et DOC, s'il vous plaît. Ah oui, la famille du rap est là. La famille du rap est là. Et on peut dire aujourd'hui que c'est un grand moment qui est en train de s'écrire dans l'histoire du rap. La famille, est-ce qu'il vous reste encore de l'énergie, j'ai dit? Entends pas ou quoi, DJ Crime? Roulez!
Couvre-feu, Ami Karim.
Ah bon?
Comment ça va, les neveux? Du bruit, la famille! Ami Karim, tonton du bled. Pour tous les mystes morts. Rebo classique, la famille.
Entends pas ou quoi?
Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Parce que là, je ramène tous mes amis. Alors, roulez!
Une fois, deux fois, trois fois.
Autant de fois qu'il le faudra.
T'entends pas ou quoi? Roulez!
Yeah, en direct, c'est couvre-feu, la famille. Du bruit, la famille. On va chanter tous ensemble la grande famille du hip-hop là ce soir.
Yeah.
Oxmo Puccino, Dinos, mon frérot Jackie.
On est là, frère.
Yeah. 504 break chargé, allez, montez les neveux. C'est un instant que je mets sur le toit la grosse malle bleue. Nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Le plein de gasoil et de gazouze pour pas. Bilel, babisé. On fait mon petit marché. Direction le port, deux jours, le pied sur le plancher. Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée. 24 heures de bateau,
tu sais c'est pas un cadeau.
Qu'est-ce que je vais kiffer sur la place Guido? A Pejaya City, tu haut de ma montagne. Avant de rentrer fatale, je fais un petit nez d'or. Vu qu'à Paris, j'ai dévalisé
tout à tue.
J'ai rassasié tout le village,
même le plus petit.
Du tissu et des bijoux pour les jeunes mariés et des joyeux pagailles. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit.
Lélé-la.
Parce qu'à là, je ramène tous mes amis.
Lélé-la.
Alors, dans une semaine, je rentre à Vitry.
Lélé-la.
J'irai finir mes jours là-bas.
Bah, ouais.
Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit.
Lélé-la.
Parce qu'à là, je ramène tous mes amis.
Lélé-la.
Alors, dans une semaine, je rentre à Vitry.
Lélé-la.
J'irai finir mes jours là-bas.
Bah, ouais.
Sur la plage à Boulemat avec mon zinc et son Delboca.
Dans la main.
Un verre de Selecto, imitation coca. Une couche de zizitoune sur le corps et sur les bras. Avec mon sur un fond d'Awania. On parle de tout et de rien. Des négars au visa. De la traversée du désert au bout qu'on se faisait moi. Et mon cousin me dit Karim,
qui faisait là?
Il était tellement beau que j'ai jeté mon cirage en rat. Avec deux trois blédards on tape la discussion. Maintenant on peut pas s'empêcher de dire que je suis dans la chanson. L'un de me dit moi
t'as pas avec Michael Jackson.
Et l'autre me montre
t'as pas avec Michael Jackson.
Il parle trop vite et un arbre blédard. Tu sais ce qu'il ferait pour une poignée
d'Inalcona.
Le soleil se couche et tout le monde rentre chez soi. C'est l'heure du repas et du latte pour d'autres la chicha. J'ai passé un bon moment dans ce qu'on appelle
Vermont.
Si j'avais assez d'ose, je ramènerais
tout le monde.
Mais je peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe vraiment. Les 10 morceaux ont disparu aux enfants et maman. Et je suis rentré en la cité, Arbeya. Content de revoir mes potos. Pendant deux semaines j'ai mangé. J'irai finir mes jours là-bas.
Inch'Allah.
À la cité mon père m'a dit.
Elle est là.
Parce qu'à là je ramène tous mes amis.
Elle est là.
Alors dans une semaine je rentre à Vitry.
Elle est là.
J'irai finir mes jours là-bas.
Wow, wow.
vais rester à la cité, mon père m'a dit.
Elle est là.
Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis.
Elle est là.
Allons, dans une semaine, je rentre à Vitry.
Elle est là.
J'irai finir mes jours là-bas.
Waouh, waouh,
waouh. Autant du blé de la famille. Du bruit pour le 113, la famille.
Aïe, aïe.
Du bruit pour la mafia Jeffrey, la famille. Et spécial pour mon frère DJ Medji. Bisous mon frère.
Paix à son âme. Et faites du bruit pour le tonton le plus célèbre du rap français. Attends pas ou quoi?
Eh la famille. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Inch'Allah. Merci la famille. Jackie.
Ah mon frère.
Quel homme.
Non,
quel homme, Jackie.
Non, mon frérot.
Non, mon frérot. Quel homme.
Non, magnifique.
Quel homme, Jackie. Eh, s'il vous plaît, un maximum de bruit pour Jackie Denegmaron, s'il vous plaît. Ah, gros.
C'était Rimka. Il est né le 21 juin 1978 à Paris dans une famille d'origine kabyle algérienne. Le 113 se forme en 1994 à Vitry-sur-Seine. Il est composé de Rimka, Mokobé et Apé, qui sont trois amis d'enfance, et le nom du groupe est une référence au numéro du bâtiment où ils passent leur jeunesse dans la cité Camille Croûte. Maintenant, on va passer à notre ami, collègue, militant de longue date, Jonas. Eh oui, Jonas, vous allez l'écouter, vous allez savoir. Quel problème ? Problème de quoi ? On découvre ça sur les ondes de Radio Galère 88.40 dans l'émission Haraga. نخليكم تسمعوا Alors ceux qui connaissent pas Jonas c'était un grand militant. C'est quelqu'un qui milite depuis 20 ans, je l'ai connu depuis 20 ans, n'est-ce pas Jonas?
Bien sûr, depuis 20 ans, j'ai même fait la grève de la faim illimitée de Port-d'Aix. Pourquoi? Puisque mon pays de naissance, la Côte d'Ivoire, c'est disant un pays démocratique. Et tout ça, les autorités de mon pays d'origine, donc, m'ont accusé d'avoir usurpé, d'avoir volé les papiers ivoiriens parce que j'étais candidat à la présidence de la République. Tu vois, mais je milite dans ce sens-là, puisque bien avant que je crée le PPA, c'est-à-dire le Parti du Peuple Africain, c'était le 5 continents avec lequel je m'occupais des jeunes. Tous les jeunes de toutes nationalités à Marseille. Mais malheureusement, tous ces jeunes-là, on leur a lavé le cerveau. Ils n'ont pas voulu donc faire quoi que ce soit. Et c'est pour ça que j'ai un peu arrêté.
Alors, aussi, vous étiez victime aussi d'attaques, d'agressions de la part de votre communauté quand même.
Je suis victime d'agressions de la part de la communauté ivoirienne. C'est-à-dire que c'est le tribalisme. Le tribalisme, à partir du moment où le clan Gbagbo, la tribu Gbagbo, c'est-à-dire les Bété, qui sont nombreux ici à Marseille, représentés, ils ne veulent pas du tout composer avec des personnes comme moi qui, éventuellement, se défend et se bat. Ce matin même, à 8h15, quand je descendais ici, j'allais d'abord au boulevard national, puisque j'allais aller, donc je partais pour un rendez-vous voir un logement. Un certain Alain, qui s'est dit donc représentant des Ivoiriens, c'est un bété, c'est des sauvages. Il m'a attaqué. Ça fait déjà 3 ans que ce mec, partout il me voit, il m'attaque. Parce qu'il vient être français, mais il a la candidate de casserole derrière. Comme il a des casseroles derrière, il a voulu passer par moi pour avoir donc la santé française. D'un coup, il se rebute. À partir du moment où les documents ont été remis à des hommes politiques, il devait me remettre donc des compléments de son dossier, puisque le dossier était ouvert, c'était en attente. Il ne m'avait donné que 3 papiers. Les 3 papiers, je les ai donnés donc à des élus. Ces élus-là, il a voulu que moi je lui donne donc le nom, que lui-même il y ait. J'ai dit non. À partir du moment où tu veux maintenant faire le retrait de tes papiers, je vais aller les voir. Je suis allé voir ces élus. Ces élus m'ont dit que tant qu'ils ne donnent pas la motivation, la raison pour laquelle il veut récupérer son papier, ils ne me le donnent pas. J'ai demandé à ce monsieur, Alain, complice à la tête, soi-disant, de la communauté ivoirienne, qui me traite de fou, de menteur, de salaud, de PD, de partout. Ça fait 3 ans que ce type. J'ai même déposé une plainte contre lui, pas main courante, hein, une plainte contre lui. Mais il n'a jamais été inquiété. Avec sa bande de Mama Africa à la rue d'Aubagne, puisqu'ils sont là uniquement, ce sont des gens qui se livrent à des trafics. Et comme moi, je ne suis pas dans ce milieu-là de trafic, de magouilles, de mariages gris, de mariages blancs, de voleurs d'enfants pour se faire régulariser, toucher les allocations familiales, et ils m'en veulent.
J'ai l'impression que votre scénario, votre film, il ne se termine pas quand même. 20 ans et vous ne lâchez rien du tout. Vous faisiez partie de quelle tribu à l'époque ?
Je ne lâche pas parce que moi, je suis gourou. Je suis de l'ethnie gourou. Je t'ai donné même, je t'ai fait la copie des trucs, il est dedans. Quand tu iras, tu verras la carte ethnique des groupes représentés en Côte d'Ivoire. Moi, je suis gourou de l'ethnie gourou. Et ils sont bêtés. C'est le clan de Gbagbo, c'est les nationalistes. Ce sont eux qui foutent le bordel en Côte d'Ivoire, depuis Fort Landa, depuis Oufoué. La merde qu'il y a eu, la guerre civile qu'il y a eu, ce sont eux qui ont provoqué. D'accord ? Les tueries qu'il y a eu, ce sont eux, ils sont à la base de ça. Je n'ai rien contre eux, mais ils m'en veulent. Parce que je ne suis pas issu de mes groupes ethniques. Je dis bien les BTC de sauvages.
Donc vous avez une image quand même de l'Afrique qui est noire quand même, et qui est, je m'excuse le terme, qui est sombre.
L'Afrique est mal partie. C'est pas d'aujourd'hui. Depuis soi-disant que De Gaulle a dit, vous les Africains, je vous accorde donc une certaine autonomie sous forme d'association en 1960, et il s'est dit que c'est une indépendance, ce n'est pas une indépendance. Une indépendance, une liberté entre nous, elle ne se donne pas. Elle se prend la liberté. Et ma liberté, je la prends avec les Ivoiriens, que ce soit à Marseille, que ce soit n'importe où, avec ces sauvages-là, avec ces bandes qui m'agressent tout le temps, et que la police ne fait rien, il y a un assistant à personne en danger. J'ai porté plainte contre ces derniers. Donc 24 coups de Belzins, ils travaillent donc au Maxi Bazar. Les gens peuvent aller le voir.
Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ?
Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais continuer le combat. Tant que je suis à Marseille, tant que je suis vivant, tant qu'ils ne me lâchent pas, la liberté d'aller venir.
Alors, qu'est-ce que vous allez demander au maire ? Il faut vous adresser au maire aussi, qui vous donne un coup de main, ou je ne sais pas moi, il y a un maire ici, il y a une issue quand même.
Mais depuis que l'équipe a changé, je suis allé déjà pour prendre un rendez-vous avec auprès de M. Lemina. On ne m'a pas reçu. Alors, je ne sais pas qui faut voir à la mairie pour être entendu et convoquer ces gens-là, leur dire qu'ils sont en France, ils vivent dans une république, ils sont à Marseille. Marseille, c'est la deuxième ville de France. Marseille, c'est Marseille qui a ratifié, qui a été la première ville de France à ratifier donc la déclaration des droits de l'homme. Pourquoi nous vivons dans un état de droit et moi, ces sauvages-là, ces bandes de sauvages, de voyous, de magouilleurs, de macros qui mettent les filles, les Ivoiriennes sur le trottoir, qu'on ne leur fait rien.
Vous voulez parler des prostituées ?
Je veux parler des prostituées.
Alors il y a un trafic qui vient de Côte d'Ivoire ?
De Côte d'Ivoire, oui, jusqu'à ici même. Je connais. J'en connais. une certaine question, donc on a engrossé tout ça. C'est à moi qu'elle a fait recours. C'est à moi qu'elle a eu recours. Et c'est moi qui l'ai aidé. Tant que ces Ivoiriens-là, si maintenant, comment dirais-je, la France, nos élus, qui nous représentent, qui sont élus par le peuple et qui représentent la République, s'ils ne font rien pour moi, je dis qu'il n'y a non-assistant à personne en danger. Je suis en danger. Parce que Gadi Alain m'a dit que lui, il est voyou. Il va m'envoyer du monde. Ce sont ses amis qui vont me faire affaire. Mes activités, mes allers-venir, il surveille. Il l'a répété encore ce matin. Il l'a encore confirmé. Il l'a réitéré. Et je n'ai pas peur. C'est une aide au secours que je lance. En tant que citoyen, je suis franco-ivoirien. Je suis propre. Je ne suis pas sale, je suis propre. Et ces gens-là, je ne vais jamais composer avec eux. Que ce soit Gadji, que ce soit Mama Africa, qui s'appelle
quoi?
Voleuse d'enfants pour se faire régulariser, je ne vais jamais composer avec eux. Et mon trait de fou, oui, je suis un fou. De la façon dont je raisonne, je suis un fou. Je me documente, j'ai des preuves de ce que je fais. Je ne suis pas un voyou, je n'ai rien contre le voyou. Je ne suis pas un délinquant, je n'ai rien contre les délinquants. Je ne suis pas un drogué, je n'ai rien contre les drogués. Chacun fait sa vie, chacun sa croix.
Je crois qu'on a tout dit.
Nous avons tout dit et il sera donc souhaitable que tu ailles, comme tu le sais, tu fais ton travail, à la Banque de France, à la Banque Postale Colbert, te renseigner et si possible, si tu peux, tu m'invites à la radio. Je vis encore avec des preuves. Je te le montre qu'on fasse des émissions là-dessus sur la communauté ivoirienne. C'est ce qui m'embête.
Merci Jonas.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Il n'y a pas de quoi. Acte numéro 2. Jonas Aka Bizebié, 63 ans, et l'affaire de la Banque Postale de Colbert.
Oui, je suis M. Jonas Aka. Je suis le président fondateur de l'association Les 5 continents, une seule humanité, de la Ligue universelle de défense de la race noire. Et en 2001, j'ai créé le PPA. Le PPA, c'est le parti du peuple africain, avec lequel j'aurais voulu donc aller me battre en Côte d'Ivoire sous la propre couleur de mon parti politique.
Alors Jonas, alors vous m'avez interpellé. Et pour quel sujet?
Aujourd'hui, je suis venu, j'étais appelé hier et on s'est entendu. Tu m'as donné rendez-vous à 10h30. C'est un SOS que je lance aujourd'hui à toutes les Marseillaises, à tous les Marseillais qui sont donc affiliés à la Banque Postale Colbert et à la place, à la porte d'Aix. Il y a un problème d'escroquerie et de racisme. J'en suis victime et je vais dénoncer. Donc, ils me doivent des sous, ils m'ont détourné des sous, ils ne veulent pas me rembourser. Et ça fait plusieurs fois. Lundi dernier, c'est lundi là, je suis passé le voir. Mardi, je suis passé le voir. Ce matin, avant que je ne vienne ici, qu'on se rencontre, je suis allé leur porter un dossier. Qu'est-ce que je leur ai dit? Je leur ai dit honnêtement, la banque postale a ouvert donc le bal. Maintenant, nous allons danser. Nous allons danser, c'est-à-dire que si d'ici samedi, ils ne me restituent pas mes sous, ils ne me téléphonent pas, moi, j'engage donc une procédure contre la banque postale. Ça, c'est une personne morale et la personne physique, c'est-à-dire les responsables qui sont donc les chefs de bureau. Je vais donc entamer, comme j'ai l'habitude de le faire, une grève de la faim illimitée devant Colbert, la banque postale Colbert, pour dénoncer ça, puisqu'il y a beaucoup de victimes et je ne suis pas le seul.
Alors quel genre de problème? Est-ce qu'il n'y a que vous la victime ou il y a d'autres?
Il y a plusieurs victimes, puisque déjà, une fois déjà, ils ont été saisis. Il y a eu une enquête, et des gens qui ont été donc saisis, qui ont été condamnés. Ils ont détourné le fonds, les clients. C'est-à-dire que à la banque postale, donc à la porte d'Aix et à Colbert, ils le font uniquement qu'avec les Noirs et les Arabes.
Et comment vous le sentez comme ça, vous? C'est sûr, c'est confirmé?
Je confirme, puisque moi, tu le sais, je suis méticuleux. J'ai les documents, j'ai toutes les preuves. Si tu veux m'inviter à ton émission, je viens avec les documents. De toute façon, j'ai monté un dossier. Nous avons monté un dossier depuis le 30 décembre 2011. 2021 et jusqu'à aujourd'hui, il me faut marcher. Les dossiers sont là. Les preuves sont là. Ils disent qu'ils ne m'ouvrent pas le compte, mais il faut que je paye donc une assurance fictive. Je n'ai pas de compte et je vais payer une assurance? Impossible.
Voilà. Vous n'avez jamais ouvert un compte là-bas ou...
J'ai un compte depuis Bordeaux. À la poste, c'était pas la banque postale, c'était à la poste. Ensuite, quand je suis venu faire donc des formations à Paul Valéry, à l'université Paul Valéry de Montpellier, donc j'ai transféré mon compte à Nîmes. Donc de Nîmes, je suis venu ici, je suis toujours à la poste. J'ai un compte courant à la poste et c'est un CCP que j'aurais voulu avoir. Et c'est avec le CCP que j'ai des problèmes avec eux. Par contre, puisqu'ils m'ont invité à aller à la Banque de France pour que la Banque de France me désigne donc une banque pour ouvrir un compte, je suis allé à la Banque de France, j'ai les documents, je ne suis pas fiché à la Banque de France.
Vous n'avez jamais eu de problème? Vous n'avez pas...
Jamais eu de problème avec la Banque de France, ni avec la Poste, ni avec n'importe quelle banque. Je ne suis pas fiché du tout. Et je ne comprends pas pourquoi... Il me faut marcher comme il faut marcher les autres. Et moi, je ne me laisserai pas faire.
Parce qu'on voit beaucoup de problèmes ici, par exemple, à la Poste des Réformés. Il y a beaucoup de problèmes aussi à chaque fois. Les employés se font tabasser à chaque fois. Dernièrement, la Poste elle était fermée pendant 2 jours à cause des agressions contre les employés. Mais la Poste de Colbert, elle est petite. Est-ce qu'elle a les mêmes problèmes?
La banque postale Colbert a les mêmes problèmes que les autres banques. Lundi, avant que j'aille là-bas, il y avait déjà la police devant la porte, devant l'entrée. Donc moi, je n'ai pas peur de la police. La police, elle est là pour protéger tout le monde, les citoyens. Je respecte la loi de la République. Je respecte la police. Ils sont en tenue, je les respecte. Mais je n'ai jamais eu de problème avec la police. J'ai des problèmes avec la banque postale, avec des individus qui se disent des responsables là-bas. Il y a 2 personnes, je peux les nommer, Madame Virginie et Madame donc Andani. Ces 2 personnes-là, c'est des personnes physiques, contre lesquelles très prochainement, si jamais ils ne me remboursent pas mon argent à la Miam, je vais porter plainte contre eux.
Et ils t'ont traité de quel... puisque vous êtes victime de racisme, vous m'avez dit.
Pour moi, c'est du racisme. C'est la négrophobie, j'appelle ça, la négrophobie. Parce que me faire marcher, monter le dossier, prendre les documents avec moi, qui prouvent que, eux, ce sont eux qui m'ont refusé. Le compte, d'ouvrir le compte, l'ouverture du CC, du compte au CCP, et ensuite qu'ils me fassent aller, viens, aller, va, viens, va et viens, et qu'ils ne veulent pas donc régler ce problème à l'amiable, c'est du racisme. C'est-à-dire que pour eux, je ne suis rien du tout. Et c'est pour ça que ce matin, je leur ai dit que vous avez ouvert le bal. Le bal, vous l'avez ouvert. Maintenant, nous allons danser.
Alors, je vais voir les responsables de la poste de Colbert. On va voir leur version. C'est tout à fait normal, Jonas.
C'est logique. Moi, j'aurais bien voulu partir avec toi. Mais non. Tu vas les voir. Il faut qu'ils disent la vérité. Le dossier, c'est depuis, j'ai les preuves, hein. J'ai la preuve. Depuis 30 décembre 2021, on est 2023. Pourquoi ils me font marcher ?
Jonas Aka Bizebi, 63 ans, a les mains posées sur son dossier et les yeux dans le vague. Il est fatigué, Jonas. L'histoire, malheureusement, de Jonas commence le 19 novembre 1998. Il a attrapé une vilaine pneumonie à Paris. Une fois à Marseille, son état s'aggrave. Hospitalisé à Nord pour un syndrome respiratoire aigu, Jonas est transféré le lendemain par manque de place dans le service des maladies infectieuses de l'hôpital Houphouët Mboigny, aujourd'hui fermé. Là, tout était prêt. Jonas déjà un cas. Pendant 5 jours, alors que le patient est attaché sur un lit, le docteur Stéphane Badiaga Séneke, spécialiste en réanimation, lui injecta du Zyrakin, un puissant antibiotique dans le cadre d'un essai thérapeutique. Sans avoir préalablement recueilli son consentement, je l'ai appris au bout du 4e jour, quand on m'a demandé de signer ce protocole, explique Jonas. C'était la première phase. À la seconde, je suis sûr, je mourrai. Effrayé, Jonas quitte l'hôpital dès le lendemain, sans avis médical, et dépose plainte pour recherche biomédicale sur une personne sans son consentement. Pourquoi un spécialiste de la réanimation s'est occupé de moi ? Pourquoi on m'a mis dans un service où étaient traitées les personnes atteintes du sida ou les toxicos ? S'inquiète-t-il en assurant que son état de santé s'est aggravé après l'expérimentation ? Douleurs musculaires dans les genoux, douleurs dans la poitrine, allergies, démangeaisons sur tout le corps, pincements de la colonne vertébrale. Les effets secondaires du Zyrakin lui font vivre un enfer. L'entretien a été réalisé par Kamaridi.
Set me free again. Yes, me friend, me deep on street again. The bars could not hold me, force could not control.